France Musique. Musicopolis. Hildegard von Bingen, religieuse, scientifique, artiste. Alors oui, je suis tout à fait anachronique, je le sais. Les termes de scientifique et d'artiste ne peuvent absolument pas s'appliquer à Hildegard von Bingen, religieuse du XIIe siècle. Je les utilise uniquement pour essayer de définir avec des mots d'aujourd'hui cette femme à la destinée rarissime. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été religieuse, mère abbesse et fondatrice de couvent, qu'elle a écrit des livres à caractère médical et naturaliste, des livres plus littéraires concernant ses visions, et qu'elle a composé un certain nombre de pièces musicales. J'ajoute qu'elle a aussi tenu un rôle politique par sa correspondance avec un certain nombre de grands de son époque, empereur et pape notamment. Hildegard von Bingen est née dans une famille de la haute aristocratie en pays rhénan, entre le Rhin et la Forêt-Noire, en 1098. La petite fille a une mauvaise santé. Elle racontera plus tard qu'elle commence à avoir des visions dès l'âge de 3 ans. Dans la troisième année de mon âge, écrit-elle, j'ai vu une telle lumière que mon âme en a été ébranlée. Mais à cause de mon enfance, je n'ai rien pu en dire. Elle a 8 ans lorsque ses parents la destinent à entrer dans les ordres. À 14 ans, elle commence sa vie monastique dans un reclusoir près du monastère bénédictin de Disibodenberg. Elle est enfermée avec une autre jeune fille de l'aristocratie, Jutta von Sponheim. Jutta a voué sa vie à Dieu après avoir recouvré d'une très grave maladie. Les deux jeunes filles prononcent leurs vœux en 1112. Jutta von Sponheim a 6 ans de plus que Hildegard et elle lui apprend une foule de matières, non seulement la religion et les pratiques religieuses les plus strictes, mais aussi la lecture des psaumes en latin, le chant et le jeu du psaltérion. Jutta et Hildegard sont enfermées, mais elles disposent d'une fenêtre par laquelle leur arrive leur nourriture et sans doute des livres venus du monastère voisin. Elles sont néanmoins ouvertes sur l'extérieur. Yuta correspond avec beaucoup de monde. On la consulte pour ses prophéties, son enseignement et ses talents de guérisseuse. Peu à peu, d'autres jeunes filles les rejoignent. C'est le noyau d'un petit couvent dont Yuta devient la mère abbesse. En 1136, épuisée sans doute par des pratiques ascétiques trop dures, Jutta von Sponheim, supérieure du couvent de Disibodenberg, meurt à 44 ans. Les religieuses élisent Hildegard pour la remplacer, elle a 38 ans. En 1141, Hildegard commence l'écriture de son premier livre qui traite de ses visions et qui sera intitulé Scivias. Scivias est un abrégé de l'expression latine Scivias Domini, c'est-à-dire sache les voies du Seigneur ou apprends à connaître les voies du Seigneur. Le Scivias, volume écrit par Hildegard von Bingen à partir de 1141, décrit 26 visions et il est illustré de 35 miniatures. Il commence par une préface dans laquelle Hildegard révèle qu'elle a eu ses visions depuis l'enfance, mais qu'elle en a parlé seulement à Jutta, son amie et abbesse, et à Folmar, moine du monastère voisin, qui deviendra plus tard son secrétaire. C'est Folmar, justement, qui l'incite à écrire ses visions. L'abbé du couvent lui en donne la permission. Néanmoins, elle hésite beaucoup et elle prend conseil auprès de Bernard de Clairvaux, qui va confirmer que les visions viennent bien de Dieu et qu'elle doit donc les consigner. « J'avais beau voir et entendre cela, écrit Hildegard, néanmoins comme je doutais et me méfiais de moi-même, et comme je voyais l'hostilité des paroles des hommes, j'ai longtemps refusé d'écrire, non par entêtement, mais par pratique de l'humilité, jusqu'au jour où je me suis mise à écrire. Et pendant que je le faisais, j'ai pris conscience, comme je l'ai dit, de l'extrême profondeur de ces livres. » Le Scivias, le premier livre de Hildegard, est construit en trois parties, en référence à la Trinité. Chacune des 26 visions est d'abord rapportée, puis elle est suivie de l'exégèse venue de la voix du ciel. « Écris-le, dit cette voix, en te fondant non pas sur le langage de l'homme, non pas sur l'intelligence de l'invention humaine, non pas sur la volonté humaine d'organisation, mais en te fondant sur le fait que tu vois et entends cela d'en haut, dans le ciel, dans les merveilles de Dieu. » D'une manière générale, dans tous ses textes traitant de ses visions, Hildegard insiste bien sur le fait qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle écrit. « In vera visione vidi »,« j'ai vu dans une vraie vision ». Elle précise « Les mots que je dis ne viennent pas d'une bouche humaine. Je les ai vus et entendus dans des visions qui m'ont été envoyées. Dieu va où il veut et non à la gloire de l'homme terrestre. Je suis toujours emplie de peur et tremblante. » Je ne fais pas confiance à mes propres capacités. Je tends ma main vers Dieu pour qu'il me porte comme le vent porte la plume. La troisième partie du Scivias comprend 14 chants et une partie de ce qui sera plus tard réuni sous le titre de « Ordo Virtutum », c'est-à-dire « le jeu des vertus ». Une sorte de drame religieux qui fait intervenir l'âme humaine partagée entre les vertus et le diable. Dans le prologue, les patriarches et les prophètes interrogent. Qui sont-ils ceux qui sont comme des nuées ? Les vertus ensemble répondent « Vous ». Saint des temps anciens, pourquoi vous émerveillez-vous à notre sujet ? La parole de Dieu devient lumineuse dans la forme de l'être humain, et ainsi nous brillons avec lui, bâtissant les membres de son beau corps. Les patriarches et les prophètes reprennent. Nous sommes les racines et vous les branches, fruits de l'œil vivant, et nous poussons à son ombre. le Ordo Virtutum, jeu des vertus, composé texte et musique par Hildegarde, se présente comme un dialogue entre les différents protagonistes. Même si la notion de caractérisation des personnages paraît bien anachronique, on entend néanmoins que chacun s'exprime à sa manière propre. Voici un extrait que je vais vous sous-titrer. Bien sûr, le texte nous paraît parfois un peu abscon, mais comme le souligne toujours Hildegarde, il s'agit d'un texte révélé. L'âme infortunée, qui ne sait que faire ni où fuir, commence. « Je ne peux compléter ce vêtement que j'ai endossé. En fait, je voudrais le rejeter. » Les vertus. Ô malheureuse conscience, ô pauvre âme, pourquoi caches-tu ta face à ton Créateur ? La vertu appelée connaissance de Dieu poursuit. Tu ne connais, ni ne vois, ni ne sens celui qui t'a placé ici. L'âme répond : Dieu créa le monde. Je ne lui fais nulle injure, je veux seulement en jouir. Le diable, qui n'a pas droit au chant, crie à l'âme « Quelle est l'utilité de l'effort ? Follement, follement, vois le monde, il te rendra grand honneur. »«
Fatue, fatue, quid pro destibi laborare ? Respice mundum, et amplictetur te magno honore. »
Les vertus, n'est-ce pas la voix stridente de l'extrême douleur ? On suppose que ce jeu des vertus a été représenté en 1152 lors de la consécration du couvent de Rupertsberg que Hildegarde venait de fonder près de Bingen sur le Rhin, d'où son nom Hildegarde de Bingen. C'est qu'en effet, le petit couvent dépendant du monastère de Disibodenberg devenait trop étroit pour toutes les moniales attirées par le rayonnement de Hildegarde. Et avec une grande énergie, en bravant les difficultés causées par les différents représentants de l'Église qui lui mettaient des bâtons dans les roues, elle a réussi à mener à bien la construction et l'établissement de son propre couvent. Elle, qui continue à prétendre être un faible être humain sans capacité, se dit, là encore, inspirée par ses visions et par Dieu. Quelques années plus tard, toujours sur ordre divin, elle construit un deuxième couvent annexe pour y intégrer encore d'autres nouvelles nonnes. À côté de l'écriture de ses visions, de la construction et de la direction de nouveaux couvents, Hildegarde de Bingen trouve le moyen d'écrire de nombreux volumes qu'elle fait copier et enluminer dans le scriptorium par les sœurs copistes. Deux grands manuscrits ont été conservés, compilés à la fin de sa vie et juste après sa mort. On y trouve notamment ses œuvres musicales, au nombre de 77. En dehors de la musique, les œuvres complètes de Hildegarde comprennent des textes de vision, de sciences naturelles, de médecine et de nombreuses lettres adressées à de grands personnages à qui elle écrit en toute liberté. Le pape Eugène III, l'empereur Frédéric Barberousse, Bernard de Clairvaux, etc. Parmi les lettres écrites par Hildegarde, la dernière est adressée au chapitre cathédral de Mayence à la toute fin de sa vie. Après que son couvent a été frappé de sanctions et notamment interdit d'office et de chant pour avoir enterré un excommunié, mais qui en fait ne l'était pas, je vous rassure, Hildegarde, à 80 ans, prend la plume et avec une énergie farouche, elle défend le couvent et l'usage de la musique. Elle est probablement allée jusqu'à Mayence pour lire sa lettre devant le chapitre. Dans ce texte, elle n'hésite pas à affirmer qu'en fermant la bouche de l'Église, les membres du chapitre participent aux entreprises subversives du diable. Hildegarde aura finalement gain de cause. Dans sa lettre au chapitre de Mayence, Hildegarde expose en quelque sorte sa conception du chant. « Le corps, écrit-elle, est l'habit de l'âme qui donne vie à la voix. C'est pourquoi le corps doit élever la voix en accord avec l'âme pour louer Dieu. L'âme provient de l'harmonie céleste, elle est symphonique. Et souvent, à l'écoute d'un chant, l'homme soupire profondément et gémit. Cela rappelle au prophète que l'âme provient de l'harmonie céleste. » Virga Mediatrix, Alléluia Antienne de Hildegarde von Bingen, par l'ensemble Sequentia dirigé par Barbara Thornton. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Claude Niort pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.